Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, la musique.
Ce soir, Joseph Gosne et Christophe Comte se font face à notre affiche The Hope 6 Demolition Project de PJ Harvey. L'exposition Velvet Underground Extravaganza à la Philharmonie de Paris. Et puis Epic Jammers and Fortunate Little Ditties de Bonnie Prince Billy et des Bitchin' Bajas. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Extra Fantôme. C'est jusqu'au 31 juillet à la Gaîté Lyrique à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec la plasticienne Orlan, qui est toute cette semaine l'invitée de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec le retour de PJ Harvey pour son 9e album, 5 ans après Let England Shake. Le nouveau s'intitule donc The Hope 6 Demolition Project. On nous explique que cet album s'est nourri de plusieurs voyages de l'artiste au Kosovo, en Afghanistan, mais aussi à Washington DC, qu'il a été enregistré à Londres lors d'une session particulière. On en avait parlé puisqu'il s'agissait d'une résidence à la Somerset House et que les musiciens, producteurs, ingénieurs du son travailler dans un studio construit pour l'occasion qui permettait au public de les voir à l'œuvre, derrière un miroir sans teint. Alors, est-ce que tout cela s'entend? C'est peut-être pas la question essentielle, quoique, mais la question qui demeure toujours la même pour nos disputes musicales, que vaut ce disque? On écoute l'une des chansons de l'album. That's what they want. Of all the stars. PJ Harvey, Near the Memorials of Vietnam and Lincoln, c'était le titre du morceau que nous avons.
Non, c'est pas celui-là.
Oui, c'est pas celui-là, parce qu'on a hésité entre plusieurs.
Oui.
Celui-ci, c'est
Ministry of Defense.
Ah voilà. Oui, Ministry of Defense. Christophe Comte, vous qui connaissez la tracklist par cœur bien mieux que moi, vous avez magnifiquement raconté dans les Arocs, première citation de la soirée, ce nouvel album.
Placement produit.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de voyage? Alors, il faut parler du photographe aussi qui est impliqué dans cette affaire-là.
Seamus Murphy. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut remarquer avec PJ Harvey. C'est toujours intéressant le moment où un artiste solo qui est autant marqué par son image s'efface. C'est-à-dire qu'il n'est plus en photo sur la pochette. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait quand même deux albums que PJ Harvey disparaît, après en avoir fait 8 ou 7 où elle était en photo. David Bowie a attendu le dernier moment, lui, pour disparaître d'une pochette de disque. Et là, on a vraiment l'impression que PJ Harvey, elle a pendant très longtemps tourné autour d'elle-même, de son nombril, de ses blessures, de ses cassures, de son ego, etc. Et puis depuis Let England Shake et celui-là, elle va vers les autres, ce qui était quand même pas gagné au départ. Parce que c'est
quelqu'un elle s'est aperçue qu'il y avait un monde autour de son nombril.
Exactement, et elle était quand même un peu farouche, un peu enfermée dans le Dorset, même si elle a voyagé, etc. Mais elle avait cette image quand même de quelqu'un, image qui avait été vraiment renforcée par l'album Wild Shock, qui était lui pour le coup très centré sur elle. Et depuis, ça a explosé, et sa musique a explosé en même temps qu'elle, c'est-à-dire qu'elle est allée à la rencontre d'autres gens, d'autres civilisations, on va dire, ou même des endroits des États-Unis qu'elle avait jamais visités autrement que comme musicienne. Là, elle y est retournée. Parfois un peu naïvement, parce que c'est vrai, toute la polémique qu'il y a eu autour du morceau de Community of Hope, sur le côté, à la vue des gens dans la misère, etc., à se rendre compte en 2015 ou 2014 qu'il y a des gens dans la misère aux États-Unis, c'est quand même pas une nouveauté, mais bon.
Non.
En tout cas, elle a fait cette démarche avec ce photographe, donc, Seamus Murphy, qui l'a entraîné avec elle dans des endroits un peu plus chauds que les États-Unis, au Kosovo, en Afghanistan, etc., et elle a découvert, je pense, une forme d'humanité aussi, peut-être qu'elle n'avait pas pratiqué jusqu'ici, puisqu'elle avait fréquenté surtout des gens comme Nick Cave, etc. Enfin, pas tellement des, non, mais pas tellement des gens qui étaient, des
gens. Un milieu arty, on va dire.
Oui, bon. Et donc, quelque part, sa musique s'en ressent forcément, parce qu'il y a des tas d'influences, forcément, qui arrivent, qui se mêlent à ce qu'était à la base son cœur de cible, et depuis deux albums, c'est quand même, moi, je trouve assez, majestueuse qu'elle arrive à faire, avec quand même parfois des choses. Alors celui-là est peut-être un petit peu plus difficile d'accès que le précédent. Mais en même temps, la musique de PJ Harvey a beaucoup gagné depuis qu'elle est sortie un peu de sa coquille. Et donc on a comme ça, alors là on a entendu ce saxophone un peu free, il y en a pas mal sur le disque, pas mal de cuivre sur le disque. Elle a revu sa manière aussi de composer, parce que c'est vrai que depuis deux albums, on la sent moins accrochée à sa guitare. Elle-même joue du saxophone, on la voit en photo, en tout cas en train d'en jouer. Et puis ce dispositif qu'elle a mis en place, d'un enregistrement sous l'œil des gens, avec des gens qui venaient, qui achetaient un ticket pour
45 minutes de session.
Voilà, pour 45 minutes de session, on pouvait tomber sur le moment où le batteur était en train de se régler, c'était pas vraiment le bon plan, mais bon. En tout cas, il y a quelque chose chez elle de ce désir un peu d'aller-retour entre elle aller voir les gens, elle se faire regarder aussi. Enfin, il y a quelque chose, tout ce secret peut-être qu'il y avait autour de PJ Harvey pendant très longtemps, a volé un peu en éclat avec sa musique. Et sa musique aujourd'hui, elle n'est pas uniquement centrée sur elle. C'est-à-dire que quand on écoute cet album, on a autant de propositions musicales qui sont amenées par d'autres musiciens que ses chansons elles-mêmes. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est là où j'en reviens à l'histoire de la pochette, c'est qu'à un moment, elle est presque devenue une sorte de chef de troupe comme ça, mais qu'elle est plus seulement le point central, que sa musique pourrait peut-être même se dispenser d'elle par moment, enfin qu'elle pourrait comme ça expérimenter quelque chose de plus collectif. Et je trouve qu'à l'époque où beaucoup d'artistes, au contraire, sont dans l'extrême égotisation, comme Kanye West, etc., là on a quelqu'un qui finalement accepte de s'effacer. Et c'est pas très très loin, pour en revenir et pour terminer, de Bowie avec ce dernier album qui lui aussi faisait la part belle au cuivre et qui lui aussi, d'une certaine manière, était un peu dans l'effacement ou dans quelque chose de plus collectif. Donc voilà.
Bon, Joseph Goss, est-ce que vous êtes sensible à cette PJ Harvey qui découvre le monde?
Tout à fait, et que dire de plus que Christophe? Sinon qu'effectivement, quand elle est apparue, il y a maintenant 24 ans, 1992 je crois, avec son premier single, son premier album, elle était effectivement, enfin, tout ce qu'elle racontait était à la fois, dénoté avec tout ce qu'on entendait à la fois dans les paroles et dans la musique, ce qu'on entendait à l'époque. Elle était beaucoup, elle était centrée sur son corps, ses problèmes à elle, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est dans cette, depuis le précédent album, elle est dans quelque chose de beaucoup plus universel ou universaliste. En tout cas, elle cherche à atteindre quelque chose qui, effectivement, comme le disait Christophe, va à l'encontre de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un monde fait d'artistes qui sont très égotistes. Et alors qu'elle, on a l'impression qu'elle essaie de se confronter au monde. Et j'ai l'impression qu'elle le fait davantage encore sur ce disque-là, puisque le précédent était beaucoup centré autour de la Première Guerre mondiale, donc un monde passé, alors que celui-ci, effectivement, quand elle raconte qu'elle a voyagé, etc., on sent qu'elle a envie de se confronter à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et c'est suffisamment rare pour être souligné, et c'est suffisamment réussi, je crois, dans le son, en tout cas, dans cette espèce de volonté, enfin, que je ressens, en tout cas, de se confronter au monde en étant assez virulente. La musique est vous prend tout de suite, c'est assez rock, mais en même temps ça va dans d'autres sens comme ce qu'on a entendu. C'est suffisamment rare de comme ça un peu de brutalité, j'ai l'impression, pour être noté. Et j'ai l'impression, moi, j'ai pas assisté à ces séances d'enregistrement, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir fait ça en public donne au disque quelque chose d'un peu plus brut, d'un peu plus immédiat. On a l'impression que quand même, au fond, elle sait qu'on la regarde, ou en tout cas qu'il y a la possibilité d'être regardée, et donc ça joue peut-être de manière un peu plus brutale, et j'aime bien ça. Ensuite, dans le morceau qu'on a entendu, j'aime bien l'évolution des choses, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un album qui pourrait être un disque de rock assez basique, mais finalement, quand on s'y confronte vraiment, comme dans ce morceau-là, qui est assez typique, ça part d'un point, d'un sample qui est assez, voilà, qui est tout de suite reconnaissable. Ça l'efface immédiatement pour passer à quelque chose d'un peu plus, comme ça, un peu plus nerveux. Et ça part tout à fait ailleurs. Et la fin, effectivement, ce côté un peu free, où les saxophones prennent le pas, se mettent en répétition, etc. On a l'impression qu'il y a une espèce de retour quasiment à un cri primal un peu. En réécoutant ça, je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'entendre ces disques de Free que j'écoutais à un moment où ces gens-là n'avaient, ces musiciens-là, noirs américains surtout, n'avaient pas d'autre choix que de faire cette musique-là. Et on a l'impression que confrontés à ce monde, en tout cas à notre monde d'aujourd'hui, même si ça peut paraître naïf ou plein d'illusions, etc., on a l'impression qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire ça. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est réussi. Et son effacement, comme disait Christophe, marche bien dans ce sens-là. C'est-à-dire, voilà une artiste qui n'a pas l'air de s'instagrammer, mais à laquelle, d'un coup, on a envie d'adhérer.
Mais c'est vrai que s'il est peut-être moins évident de prime abord, cet album, il me semble qu'il agit très vite, parce que on peut être un peu étonné des sonorités martiales, enfin, dans ses rythmiques notamment, mais on voit très vite, comme vous le disiez à l'instant, Joseph Goss, que ça, voilà, ça ouvre sur différents champs. Ces cuivres, ils sont aussi bien frais que les brass bands ou que des
fanfares. Le travail sur les voix,
le
travail choral est très prenant tout de suite. Oui, parce que ça reste en tête.
Elle n'est pas seule. Enfin, on sent qu'il y a du monde. Enfin, j'ai pas lu encore qui a participé à l'album. Je pense pas que le studio était immense, mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement un sacré monde.
Il y a plus de musiciens que sur le précédent. Il y a son groupe avec lequel elle tourne, mais il y a aussi d'autres musiciens qui sont venus comme ça s'agréger. Il y a aussi Flood et John Parrish qui sont les deux producteurs
historiques.
John Parrish étant aussi musicien. Enfin, il y a quand même chez elle un grand brassage, et on sent, ouais, effectivement, que elle a voulu sur ce disque-là mettre en relief une musicalité très particulière, héritée de plein de choses. Alors probablement aussi d'influence. Ça, c'est ce que prétend John Parrish, mais sans trop le savoir, sans en avoir discuté avec elle. Mais peut-être des musiques aussi qu'elle a chopées au Kosovo, des choses plus traditionnelles,
des
musiques des Balkans notamment.
La place des cuivres est importante.
Il y a ce côté-là, et je trouve que c'est assez puissant, quoi. Après, on peut toujours dire, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a peu de musiciens de ce statut-là quand même qui qui ose ce genre de choses.
Oui, parce que c'est très original. Il y a une synthèse qu'elle propose dans ce disque-là. Alors certes, il y a des influences dont on peut repérer plus ou moins facilement les sources, mais on entend quelque chose. Enfin, moi, j'ai pas entendu de disque comme ça et de musique comme ça ailleurs.
Ouais, c'était déjà le cas sur le précédent, et je trouve que PJ Harvey est quand même une des rares artistes aujourd'hui à vraiment proposer quelque chose à chaque album qui est assez différent du précédent. Et puis surtout, je dirais, elle pourrait avoir une carrière beaucoup plus confortable.
Elle pourrait faire
ce que fait Patti Smith des années, se représenter elle-même, lire des poèmes, faire quelque chose de beaucoup plus tape à l'œil. Et en fait, non, elle choisit des voies qui sont très difficile quand même d'accès. Et là, elle a choisi de disparaître aussi des médias. C'est-à-dire qu'elle ne donne aucune interview pour cet album. On a tous essayé, je pense. On s'est tous cassé le nez et je pense qu'elle va s'y tenir. Alors, c'est possible qu'elle donne une grande interview, peut-être en Angleterre ou aux États-Unis, mais pour l'instant, elle s'y tient. Elle se met derrière ce disque-là en disant voilà, ce que j'avais à dire, c'est là-dedans, c'est dans les paroles, c'est dans la musique. J'ai pas besoin d'en rajouter. Alors que sur le précédent, elle avait parlé un peu plus. Là, elle joue elle joue la carte de c'est une œuvre. Écoutez-la
avec en plus ce quelque chose qui qu'en fait elle, dans les années récentes, elle est devenue sans doute malgré elle, mais à cause de son œuvre, en tout cas de ses premières années, elle est devenue une sorte d'icône féministe. Elle est vraiment très portée. Il y a pas un magazine qui dise pas PJ Harvey nouvelle icône féministe, etc., etc. Et c'est vrai que dans un monde où il y a des icônes féministes qui apparaissent quasiment tous les jours. Que ce soit la dernière mannequin ou effectivement Patti Smith, on est débordé par ces icônes et elle choisit d'être au contraire totalement absente de ce champ-là et même les images de presse, les images qui sont données pour illustrer les papiers sont des images où elle est totalement floue dans le fond, dans le noir.
On la voit avec son carnet.
Elle disparaît totalement. Ouais. Donc effectivement, il y a ce côté écoutez le disque. C'est pas forcément un disque facile, mais c'est quand même un disque qui vous prend. Rien que de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite aujourd'hui.
Il y a une petite dimension dont on n'a pas parlé qui est, je pense, quand même assez forte chez elle, d'une forme de journalisme,
complètement.
Les reporters. Moi, je sais que c'est Jenny Bess de Savages m'avait dit que quand elle était venue les voir en concert, par hasard, elle s'était pas du tout présentée, elle était venue, et elle avait un carnet, un crayon, elle notait. Elle prend des notes, on la voit sur la pochette, on le voit sur les photos de presse, elle prend des notes et c'est quelqu'un qui est comme ça beaucoup maintenant dans l'écriture, dans la réflexion. Et quand elle produit le résultat de toute cette réflexion, de toutes ces notes, de toutes ces observations, ça donne quand même quelque chose qui est assez singulier.
Très singulier, donc on invite nos auditrices et auditeurs à écouter The Hope Six Demolition Project, c'est le titre de ce nouvel album de PJ Harvey chez Barclay Island. PJ Harvey qui sera en concert le 5 juin à Paris dans We Love Green Festival et le 5 juillet au Beauregard Festival à Hérouville-Saint-Clair.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous parlerons tout à l'heure de l'exposition de Velvet Underground New York Extravaganza. Avant cela, on retrouvera l'invité de la dispute, la plasticienne Orlan. Et nous évoquerons aussi plus rapidement Epic Jammers and Fortunate Little Ditties de Bonnie Prince Billy et des Bitchin Bajas. Avant cela, Antoine Prince Guillot pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Et puisqu'on parle de Prince, la présidentielle c'est dans un an. Et voilà que déjà dans la chanson française, le rock et le rap, les refrains engagés font leur grand retour, constate Gilles Médioni dans l'Express, qui en dresse un inventaire non exhaustif, à commencer par ceux qui évoquent François Hollande. Le président n'avait pas encore inspiré de chanson, si ce n'est le fameux pingouin de Carla Bruni, qui n'était même pas lui, jurait-elle. Ces choses faites, les orages de l'époque résonnent dans François sous la pluie de Mickey 3D, jadis auteur du tube Respire en 2003. Est-ce que tu pleures sur Paris, les yeux blanchis par l'envie d'en rester là, interroge le chanteur. François Hollande apparaît aussi dans France de Séverin, dans laquelle le musicien regrette que l'on ricane des présidences. C'est très français de se moquer sans respect de la fonction, explique-t-il. Enfin, le souriant et alangui Philippe Catherine met en scène un pique-nique avec Julie Chéry dans À l'Élysée, tandis que gronde à deux pas des jardins une manif contre le trop d'impôts. Les chanteurs s'intéressent aussi au licenciement. Grâce à Il ne rentre pas ce soir d'Eddy Mitchell en 1978, le chômeur a tenu le premier rôle dans la chanson de crise. Depuis, les 35 heures ont coulé sur le code du travail et avec un crayon trempé dans l'encrier de Renault, Cool Chen raconte Edgar, ouvrier muré dans le silence, la cinquantaine licenciée à la rue. Le déclassement est aussi traité par Benjamin Biolay dans Ressources humaines. De ressources humaines, tu n'en as plus, dit-il à un homme éjecté d'une entreprise. On chante aussi la démocratie attaquée après les attentats de janvier et novembre de l'an dernier. Charlie a été chanté notamment par Johnny dans un dimanche de janvier et maintenant Renaud dans son nouvel album où on trouve J'ai embrassé un flic et Hyper cachère. Tu la connais, la liberté, lance Mickey 3D dans Liberté, égalité, fragilité, radiographie d'une France jusque-là tranquille. Pour son premier disque solo, Christian Olivier des Têtes Raides imagine le néologisme démocramocy, titre d'une de ses chansons. J'ai voulu réinventer ce mot malade, en danger, explique-t-il. Démocramocy inclut les attentats de Paris, mais aussi l'état d'urgence, les réfugiés. Démocratie toujours, l'ombre du Front National sur les régionales, la menace de sa présence au second tour de la présidentielle, les hymnes anti-Le Pen, déjà nombreux, trouvent un second souffle. En nous envoyant la fille, pas de doute, ils ont déguisé le père, crache ainsi Cool Chen avec la rage de NTM dans La France est internationale. La France, tu l'aimes et tu la quittes en cas de victoire du FN, c'était hier. Comme je voudrais mettre les voiles, s'exclame cependant Séverin au début de France, décrivant haine et cynisme ambiant, avant de changer d'avis à la fin de la même chanson. J'ai effacé la colère pour la tourner en chanson d'amour et d'espoir, appuie-t-il. Côté quartier, la France va mal, mais je l'aime quand même, assure la fouine dans Je l'aime quand même. Et de Toulouse, Michel Clou prévient au détour d'une adresse en Italie, je reste, ce n'est pas le moment de s'enfuir. Je ne me considère pas comme un chanteur engagé, précise-t-il, mais il fallait faire résonner dans le rock l'échec de notre société. L'échec de notre société, c'est aussi finalement ce que chante un groupe issu de la mouvance opposée, les Mystérieuses Brigandes. La pop serait-elle récupérée par la réaction, s'interroge Thomas Maller dans Le Point. Depuis plus d'un an, la plateforme numérique du Comité de salut public alimente Internet de vidéos d'un étrange collectif de justicières masquées. On y voit sept jeunes femmes, le visage recouvert d'un loup noir dans des tenues diverses, tuniques de druidesse, jupes à fleurs ou toges antiques, vocalisées sur des chansons pop apparemment innocentes et propices à être reprises sous sa douche. L'amateurisme de la réalisation, les harmonies 60s, les chorégraphies kitsch, l'ambiance psychédélique et le goût pour les cadres bucoliques pourraient faire croire à des néo-hippies partouzeurs en pleine descente de LSD, mais les paroles sont, elles, à peine voilées. Une jeune fille lisait sa Bible dans le train, des bronzés livides ont commencé leur jeu malsain, entend-on dans Antifa, qui moque la GPU trotskiste. Le tango du bidas s'en prend à la saleté de kebab. Ce geste tente une réhabilitation du salut nazi. Le bras tendu, c'est mal un symbole infernal, entend-on. En enfer fustigent les flics de la pensée cachère et les jacobins génocidaires. Autre thématique prisée par ces fantômettes patriotes, le conspirationnisme visant les juifs comme les jésuites. Comment on devient américain fait ainsi allusion à l'arnaque du 11 septembre, tandis que cannabisation nationale évoque un complot d'État fumeux dans lequel les politiques feraient la promotion des drogues pour contrôler les goyes. Poutine dans Laisser vivre la Russie, comme Jeanne d'Arc ont en revanche les faveurs de notre chorale légitimiste et ultra-catholique. Au départ, les brigandes se nommaient ultra-60s, reprenant des standards apolitiques des Shadows ou de Christophe sur les plages du sud de la France. Aujourd'hui, ce serait plutôt les 60s ultra. Les brigandes, c'est les années 60 à l'envers, analyse Louis-Henri de La Rochefoucauld, seul journaliste non issu de la réacosphère à avoir pu les approcher. Elles font de la musique folk contestatrice, vivent en collectif dans la campagne, mais sont anti-drogue et anti-libération sexuelle. Si sur les réseaux sociaux, beaucoup ont cru au départ à un canular, les réactions sont de plus en plus virulentes contre ces textes aux tendances homophobes et antisémites. Face à une avalanche de commentaires insultants de la sphère gauchiste et homosexuelle en particulier, ont-elles écrit, les brigandes ont désactivé les commentaires de leurs vidéos dans lesquelles on peut notamment voir des mariés gays représentés par des têtes de cochons. En attendant, les sites nationalistes s'émerveillent de ce phénomène contre-culturel que même le maréchal Pétain aurait approuvé.
pas faire parler les morts, mais les vivants, plutôt les brigands. Vous connaissez Christophe
Comte. Alors moi, je connais parce que j'ai lu cet article assez formidable, il faut le dire, dans Technicart, sur vraiment une immersion dans les brigands. Et alors franchement, après, je suis allé écouter. Alors j'ai du mal à le dire comme ça, mais je trouve ça beaucoup mieux que tous les artistes qui ont été cités auparavant. C'est-à-dire qu'à côté de Renaud, non mais c'est vrai, musicalement,
Christophe Comte enlève le masque.
Non mais musicalement, ça ressemble à Belen Sebastian, quoi. D'accord, c'est de la pop, c'est assez beau. Alors après, les paroles, c'est épouvantable. Enfin, en plus, elles ont l'air, alors elles ont des masques, on les voit pas bien, mais elles ont l'air quand même de jouer un peu sur leur séduction. Il y a un truc un peu pervers, parce qu'il y a un grand gourou au-dessus de ça, qui est le mec, c'est un ancien 68-art qui a dévié vers l'extrême droite, qui a l'air vraiment très très étrange. Et il y a quelque chose, alors quand on parle de canular, c'est vrai que ça pourrait être un énorme canular, et ça l'est pas apparemment, mais tout ce qu'il y a autour et tout, c'est assez intriguant. Et bon, après voilà, il y a un morceau qui s'appelle Le Grand Remplacement, je crois.
Ouais, d'accord.
Mais quand on l'écoute, c'est vrai que sans en oubliant les paroles, on se dit, pour quelqu'un qui serait qui parlerait pas français, ça tient vraiment la route, hein. C'est vraiment beaucoup mieux que le dernier Renaud, quoi.
Donc c'est encore plus dangereux, donc.
Oui, c'est exactement.
Le dernier Renaud, non, on va pas parler de ça. J'ai écouté un petit peu ce matin, justement, j'avais pas écouté. Bon, passons. Parlons plutôt d'un autre. Il n'est pas bien vieux, mais il a l'air de faire le double de son âge, Bonnie Prince Billy. C'est vrai. Qui revient, comme tous les 6 mois à peu près, avec une nouvelle collaboration.
Tous les 6 mois
depuis 30 ans. Cette fois avec le trio de Chicago Beachin' Bajas, un album qui s'intitule donc Epic Jammers and Fortunate Little Ditties. Soit, comme l'aura compris Antoine Guillot, brouilleurs épiques et chansonnettes heureuses.
Tout à fait.
Hein, session originale là aussi, puisque l'album a été enregistré, nous dit-on, en 3 jours dans le salon de Bonnie Prince Billy. Celui-ci restant bien scotché sur son canapé pendant que les 3 jeunes sont sur la moquette avec leurs instruments. Le tout sur un magnéto 2 pistes. Hein.
Donc on va écouter. La test.
Voilà. Donc on va en écouter un extrait de ce nouveau disque.
Life grows.
je vais peut-être allumer un peu d'encens parce que ça manque quand même.
C'est obligatoire.
On était en train de se laisser aller doucement, une sorte de torpeur, Joseph Gosner.
C'est la rencontre de deux groupes, certes, enfin de deux artistes. Donc Bunny Prince Billy, qu'on connaît, comme vous le disiez tout à l'heure, depuis 25 ou 30 ans. Il a eu plusieurs pseudonymes, mais celui auquel il tient le plus, c'est Bunny Prince Billy, depuis au moins une quinzaine d'années. Donc sa musique, c'est plutôt du folk. Il a fait un certain nombre d'albums. Il en a fait tellement qu'on a un peu arrêté de le suivre.
C'est sûr.
Et Bichin Baras, c'est à peu près à l'opposé de ce que fait Bonnie Prince Billy d'habitude. C'est-à-dire, c'est un trio qui est plutôt new age, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est une musique plutôt ambiante, atmosphérique, à base de synthétiseurs, un peu de flûte. Comme ça,
vieux
très planante.
Synthétiseur, évidemment.
Vieux synthétiseur, très planante. Un peu Tangerine Dream-esque, pour ceux qui s'en souviennent. Mais en plus, comment dire, en plus gentil peut-être, ou plus, enfin moins intense. Mais enfin moi j'aime bien les deux, à la fois Bonnie Prince et Bichin Baras, et leur rencontre comme ça sur le papier m'avait un peu dit tiens qu'est-ce que ça va donner. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu tout d'abord il y a un côté un peu paresseux, voilà, on se laisse un peu aller dans ces morceaux qui sont un peu longs, dans lesquels Bonnie Prince Billy chante comme ça de manière encore plus tranquille que dans ces autres morceaux. Mais ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est la rencontre, en fait, entre les deux univers, et ce que ça raconte sur l'endroit où on est aujourd'hui dans cette musique-là. C'est-à-dire, Bichin Baras fait une musique qui est très influencée par le New Age. Bonnie Prince vient du folk, et ensemble, on a l'impression qu'ils sont à la limite du pastiche entre ces deux musiques. C'est-à-dire que même dans ses paroles, on a l'impression qu'il arrive une espèce de quasiment d'ascèse, de minimalisme dans ce qu'il écrit. Et il a, on a l'impression qu'il communie avec
c'est
ce qu'on pu être.
Hein,
c'est incantatoire. J'ai l'impression qu'il communie avec ce qu'on pu être, une espèce de penseur New Age des années 70 et 80. Et c'est assez.
Est-ce que Raël est dans les penseurs New Age?
C'est pas vraiment Raël, c'est du.
Non, on est plutôt sur les maisons bleues accrochées à la colline,
voilà,
quand même.
Voilà, on est très californien.
Ouais.
C'est assez plaisant. Ça me fait toujours penser que du New Age, il y a des choses qui sont nées, des choses comme la Silicon Valley, puisque la plupart des gens qui fabriquaient des synthétiseurs ou qui savaient bricoler des synthétiseurs, au bout d'un moment, se sont rendu compte que, en fait, le New Age n'en rapportait pas grand chose. Donc, ils sont allés faire des ordinateurs et Apple est né. Donc, voilà, j'aime bien l'idée que ces deux artistes-là communient avec cette période.
Ça vous repose, cette musique?
J'aurais préféré que ce soit instrumental, je dois dire, cet album. Parce que
les
moi,
voix vous gênent.
Bonnie Prince, enfin là, sur le morceau qu'on a entendu, ça va, mais sur d'autres, moi, Bonnie Prince Billy, depuis toujours, hein, je dois bien le confesser, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec sa voix, depuis Palace Brothers, etc. C'est quelqu'un dont j'ai aimé certains disques, mais toujours un peu à distance, et dont vraiment le timbre de voix me dérange.
Ça,
et
c'est...
donc là,
on n'y peut rien.
Cette fusion qui est pas désagréable, hein, franchement, c'est vrai que la musique derrière est assez riche et en même temps assez apaisée, etc. Moi, j'aurais au bout d'un moment, ça m'a un peu tapé sur le système de l'entendre
trop
comme ça, trop. J'aurais préféré que ce soit.
Mais c'est vrai que c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une musique faite dans un salon,
de se calmer, de se poser
avec quatre types accroupis et qui font tourner leurs instruments, mais
pas que les instruments.
Il se passe quelque chose, oui, sans doute.
Oui.
Non, je n'y étais pas. Donc,
non, mais on peut l'écouter comme ça aussi.
Voilà,
quoi.
Tout à fait, hein, sans doute.
D'accord. Bon. Si vous avez besoin d'un peu de calme, de vous tranquilliser, de vous détendre.
C'est pour le samedi matin.
Epic Jammers and Fortunate Little Ditties, c'est ce disque qui réunit Bonnie Prince Billy et les Bichin Baras. Il est sorti chez Drag City et Palace Records. Dans quelques minutes, nous parlerons de l'exposition consacrée au Velvet Underground à la Philharmonie de Paris. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, la plasticienne Orlan, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Orlan et la musique, quatrième chapitre de cette semaine passée avec vous. Alors, évidemment, on vous imagine aussi rockstar. Vous auriez eu envie d'être une rockstar, Orlan?
Écoutez, ça va peut-être le devenir sur le tard. Hein.
La tournée des stades.
Oui, parce que, en fait, les Chic on Speed m'ont demandé de travailler avec elles.
Ah.
Et ça va se faire à Berlin peu de temps. Et donc, on est en train d'écrire les chansons, etc. Et cette aventure, c'est vrai, m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que je n'écoute pas de musique en travaillant, par exemple, ou très peu. Je peux écouter, par exemple, de temps en temps de la musique répétitive. Parce que je trouve que ça ne me dérange pas dans mes pensées, au contraire, ça me fait rentrer dans une sorte de méditation, de concentration, et que effectivement, je connais assez peu les groupes actuels. J'avais un rapport avec David Bowie qui était assez chouette, puisqu'il m'a même envoyé par la poste son crâne, enfin le crâne avec lequel il a fait un clip. Donc j'ai écouté un peu cette sorte de musique, parce qu'effectivement, il me mettait toujours dans ses interviews des photos de mes œuvres, des opérations chirurgicales, etc. Donc mais c'est par à coup, quoi, pour moi, la musique. J'ai écouté beaucoup de musique ethno. Mmh. Et puis j'adore Brian Eno, j'adore...
Mais il y a des moments, pour vous, pour écouter la musique, il y a des rituels, ou c'est vraiment par période aussi?
J'aime bien dans la voiture quand je conduis, ça j'adore, donc voilà. Et puis chez moi de temps en temps, mais j'écoute des musiques très 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 différentes. Oui, j'écoute Marin Marais, donc j'aime beaucoup cela. J'écoute des disques avec des très très belles voix, comme une voix d'un Indien que j'aime beaucoup, mais je serais incapable de vous redire le nom. Et je pense que la musique, effectivement, c'est une question de situation. Dans la voiture, ce qui est bien, c'est quand il pleut, avec les bruits des essuie-glaces, et que vous mettez du jazz. Je trouve que là, tout à coup, il y a quelque chose qui se fabrique, qui se construit mentalement, et on est à un endroit différent de l'endroit où on était avant, quoi. Mais il faut qu'il y ait la pluie, je trouve. Sans la pluie, ça marche beaucoup moins bien.
Et les chansons,
est-ce qu'il y a de nuit, c'est encore mieux.
De nuit, la pluie, les essuie-glaces, le jazz. Oui. Mais ça vous arrive de chanter des chansons? Est-ce que la chanson, alors qu'elle soit populaire, qu'elle soit à texte, qu'elle soit de... Il y en a qui trottent dans votre tête, ça arrive?
Non, pas vraiment.
Non.
Oui, non, à part... mon ami John Lennon, j'imagine. Mais sinon...
Cette petite musique-là de l'époque, ça vous intéresse pas?
C'est pas que ça m'intéresse pas.
Ça n'arrive pas à vous.
C'est-à-dire que ça se passe pas, ça s'inscrit pas, en tout cas. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis très, très ouverte à écouter des musiques de toutes sortes. Et quant aux paroles, donc là, je vais être obligée d'en écrire avec Chicken Speed, avec Alex. Et ça va être formidable.
Et vous pensez que ça s'écrit comment, une chanson?
Oh, il faut d'abord réfléchir à ses focus, à ce qu'on a envie de dire et de faire passer. Parce que là, il y a quand même des messages. Ça peut être repris en chœur, ça peut être... Il faut se méfier quand même de ce qu'on va écrire.
Une responsabilité?
Oui, je pense qu'au moins n'importe comment, je crois vraiment à la responsabilité de l'artiste, que ce soit à cet endroit ou à un autre. Je pense qu'il y a vraiment une responsabilité. Où on fait sa petite œuvre dans son coin pour papa, maman, sa petite tribu, mais dès que on convie un public pour le mettre dans une exposition, et qu'on fait se déplacer des gens jusque-là, je pense que vraiment, il ne faut pas tout à fait faire n'importe quoi, quoi.
Et alors, la chanson, ça pourrait être le bon médium pour faire passer quel type de message pour vous, Orlan?
Ah, il y en a beaucoup pour le moment qu'on a envie de faire passer. Par exemple, la liberté d'offenser, par exemple. On pourrait en parler. On pourrait parler des immigrés, on pourrait parler de beaucoup de choses qui actuellement font problème. Mais aussi... j'ai aussi très envie de parler de tout ce qui se passe dans la science, dans les biologies, les biotechnologies, la génétique, les greffes d'organes, les greffes de visage, etc. Je pense que c'est des moments qui sont vraiment... j'ai envie d'être une chroniqueuse de mon temps, mais une chroniqueuse vraiment éveillée, quoi. Quelque chose qui dit des choses sur notre société, qui pointe avec le doigt de la désignation, comme ça...
Bon, il va falloir commencer au moins par un double album, alors.
Ah ben oui, mais on peut voir grand, hein, pourquoi pas.
Non, oui, c'est pas
non là, on va pas commencer comme ça. Parce que comme on n'a jamais travaillé ensemble, on va faire une chose. Et puis à partir de cette chose, on va voir ce qui se passe.
Une
Nous poursuivons cette dispute consacrée le jeudi soir à la musique, en allant du côté de la Philharmonie de Paris pour constater comment Christian Fevret et Carole Mirabello ont répondu à la question toujours complexe de savoir comment réaliser une exposition sur la musique, le sujet le Velvet Underground, groupe ainsi baptisé en novembre 65, après quelques autres précédemment choisis. Il réunit donc Laurie, John Kell, Sterling Morrison et Angus MacLise. Je me réfère à la, évidemment à l'autorité, on en reparlera. Lui quitte le groupe dès qu'on touche leur premier cachet parce qu'il trouve que c'est déjà une compromission. Bon, il viendra faire un tour.
Il a quitté le groupe à la fois à cause du cachet, mais surtout parce qu'on lui donnait un horaire de début et un horaire de fin.
Ouais, c'était insupportable. Bon,
ouais,
on comprend bien. Il est remplacé par Motoker. Le groupe, on le sait, va s'évanouir dans l'underground new-yorkais, d'abord sous la protection d'Andy Warhol, qui va leur présenter Nico et qui les inclut dans des spectacles totaux dont nous reparlerons. Et l'aventure qui démarre véritablement avec ce premier album produit par Warhol, vite rebaptisé l'album à la banane. Mais il y a un avant et un après Warhol pour le Velvet, c'est ce que souhaite notamment montrer cette exposition.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Bon, quand même, et malgré tout, un extrait de cet album à la banane, mais qui ne doit pas cacher la forêt du Velvet Underground. Premier regard sur cette exposition avec vous, Joseph Gosnin.
Alors, moi j'étais très agréablement surpris par l'exposition, c'est-à-dire surtout par le foisonnement de l'exposition. Quand on y est, on a l'impression d'être vraiment submergé par toutes les informations sur le groupe, sur son époque, sur tout ce qu'il traverse, par les documents, les sons, les images, C'est une exposition qui n'est pas uniquement, qui part du groupe. Enfin, le groupe est effectivement central, son rapport avec Warhol aussi, tous les musiciens, mais il n'y a pas que, il y a tous les gens qui ont gravité autour, tous les gens qui les ont construits, et l'époque aussi. Il y a des documents, des journaux d'époque, des fanzines, des films, des photos. Donc on est totalement dans cette, on a l'impression d'être dans la tête ou dans l'esprit des gens qui étaient dans ce groupe, ou en tout cas qui étaient autour de, donc de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite et c'est d'autant plus une réussite que on n'aurait pas forcément parié sur ça. C'est-à-dire, autant se dire qu'une exposition sur Bowie, sur Gainsbourg sont des expositions dont on se pressent le succès. Autant sur ce groupe-là, qui rappelons-le, il y a 20 ans, dont il y a 20 ans, les disques étaient encore assez difficilement trouvables, quand même, ou il y a 30 ans en tout cas, d'un coup, ce groupe-là devienne comme ça, à la Philharmonie, avec une exposition aussi riche, des gens qui s'y intéressent tellement, autant de papiers, etc. D'un coup, c'est étonnant de voir que le Velvet, qui était ce groupe totalement oublié, enfin qui a existé 5 ans finalement, qui avait 4 albums de son vivant, d'un coup devienne ce référent ultime. Et pour le coup, ça raconte aussi une chose, c'est-à-dire que finalement, ce groupe-là a aussi été quelque part dans ces années-là, dans les années 60, une espèce de troisième voix à côté des Beatles, des Stones, c'est-à-dire la voix de on peut ne pas exister, ou en tout cas on peut être obscurci par l'époque, mais le fait de raconter son époque de manière aussi forte, aussi documentaire et aussi poussée, fait que peut-être que les choses survivent et effectivement le Velvet a survécu à sa propre existence. Et c'est ça, l'exposition elle raconte vraiment ça, et dans ce sens-là c'est passionnant. Et c'est d'autant plus passionnant que la musique elle-même et ce qu'on entend dans l'exposition et aussi la manière de réécouter les albums. Mais ça fait qu'en fait, on se rend compte que ce groupe-là ne sonne pas du tout daté. Même le morceau qu'on vient d'entendre, Sunday Morning, ça pourrait être un morceau composé hier, mais ça reste très, 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 très vivace.
Christophe Comte, sur l'exposition elle-même ?
C'est une exposition qui est très bien conçue parce qu'elle épouse complètement ce qu'a été ce groupe, c'est-à-dire que ça a été un catalyseur. Ça a été, il est passé furtivement dans les années 60. Il a charrié avec lui toute une partie de la culture new-yorkaise, notamment de la fin des années 50 avec la Beat Generation et tout ça, et jusqu'aux années 60. Et après, il a eu une descendance énorme. Et donc, l'expo montre ça en trois parties, en trois espaces. Un sur tout le foisonnement new-yorkais. D'où viennent-ils ? Quel a été le terreau sur lequel ce groupe assez toxique a réussi à pousser ? Et puis une dernière partie, peut-être un peu la plus décevante quand même, sur son influence, parce que l'influence du... Alors il y a aussi un jukebox avec 200 reprises, on voit un peu ça, mais bon, il y a des œuvres d'art contemporain, on sait pas, bon, c'est un peu arbitraire le choix, est-ce que c'est vraiment le Velvet ou pas, bon. Mais en tout cas, dans la volonté de cette exposition, et je reconnais bien là le caractère pointilleux de mon ancien patron Christian Feuvrez, qui est quand même l'œuvre de sa vie, hein, ça fait très longtemps qu'il y travaille, et il a fait ça méticuleusement, peut-être plus que tous les commissaires d'exposition avant lui, parce que vraiment c'est un travail de fourmi, parfois qui n'a servi à rien, parce qu'aller chercher dans des archives très longtemps pour en retirer finalement pas grand-chose, parce que je crois qu'il avait deux ou trois fois plus de matériel que ce qui est exposé, ça donne quand même une impression de foisonnement incroyable. Les gens peuvent y aller, même s'ils n'ont jamais entendu parler du Velvet, ou très vaguement, ils s'ennuieront pas, parce qu'il y a beaucoup de choses sur...
Une époque, une ville, l'effervescence...
Qui dépasse vraiment le groupe. Il y a ce film formidable au début de mise en parallèle des deux enfances de Lou Reed et de John Cale. Ça dure 10 minutes, mais c'est vraiment très éclairant sur comment ces deux personnages, l'un gallois, l'autre new-yorkais ayant grandi à Long Island avec quand même une enfance très difficile, comment ils se sont retrouvés dans la musique alors que l'un venait plutôt du classique, du contemporain,
la musique savante,
et l'autre vraiment du rock'n'roll le plus basique. Et Et la magie de ce groupe, elle est faite de ces deux personnalités qui ont réussi à rentrer en éclipse. Et puis aussi, à un moment, à Nico, qui est quand même un personnage, et Warhol. Enfin, tout, c'est forcément un groupe qui est tellement photogénique, sexy, qui écrase tout le monde. C'est vrai, on peut regarder toutes les expos qu'il y a eu, mis à part Bowie. C'est quand même celle qui est la plus photogénique, donc plus que Brassens, par exemple.
Non, mais c'est
formidable de pouvoir voir ça en France pour la première fois. Mm-hmm. C'est quand même, c'est une vraie fierté d'accueillir cette expo. Moi, j'espère qu'elle va pouvoir retourner dans son centre névralgique à New York et voyager dans le monde, parce que sur ce groupe-là, on pouvait difficilement faire mieux que ce qui a été fait là, avec la scénographie de Mathalie Crassé aussi, qui est assez...
Réunion de talents, ça donne généralement les choses bien. Il faut encore une fois souligner le travail fait par la Philharmonie dans tous les domaines, qui est quand même une réussite dont on se régale.
Le catalogue est très beau.
En plus,
le catalogue est très beau, privilégiant beaucoup l'image aussi.
Mais ce qui est
Joseph,
ce qui est intéressant, pour rebondir un peu sur ce que disait Christophe sur la dernière partie de l'expo, c'est-à-dire finalement la descendance. L'expo elle-même est une forme de descendance du Velvet. C'est-à-dire, ce groupe est très difficile. Il est très difficile de se confronter à ce groupe. C'est très difficile de le reprendre finalement. C'est très difficile de lui être à la fois fidèle et infidèle. En tout cas, en musique, je connais pas de très très bonnes reprises finalement.
Moi, j'en connais qu'une, mais c'est Tracy Thorn qui reprend Femme Fatale.
D'accord, ce sont vos
ce sont mes marottes.
Ce sont vos marottes, vos obsessions.
Mais
on
mais
en a
c'est
chacun.
Vrai.
Ça existe, mais dans le fond. À partir de ce répertoire-là, personne n'a recréé de choses aussi. On s'en est inspiré. Ça a donné toute la scène indie des années 80 anglaise. Ça a donné beaucoup de choses comme celle-là. Mais finalement, ce qui a été le plus prolifique, le plus passionnant, c'est le travail critique qui a été fait autour. Et cette exposition en est toute l'historiographie. Enfin, ça, c'est la dernière émanation. J'imagine qu'il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui a été réécrit, réinventé, notamment en France. Hein. On pense au travail de gens comme Yves Adrien dans les années 70, aux Un Rock, on parlait de Christian Feuvret, c'est vrai que c'est lui qui était à l'origine à la fois du journal, mais aussi de ce moment très fort dans l'histoire de ce journal, qui a été ce hors-série au moment de la première exposition sur le Velvet et sur Warhol à la Fondation Cartier en 1990, je crois.
Avec une reformation.
Avec une reformation.
Très brève, mais en tout cas, qui a marqué.
Et il y a comme ça une histoire française du Velvet, il y a même le tout premier bootleg du Velvet, c'est un bootleg français. Donc il y a une histoire française et c'est assez passionnant que cette exposition effectivement continue cette tradition là.
Christian Feuvret a regardé le nouvel hors série des Un Rock sur le Velvet. Christophe, il a fait des retours,
il a interviewé dedans, donc je pense qu'il l'a vu.
S'il voyait des choses qui n'allaient pas, il vous aurait tapé sur les doigts déjà.
Oui, il aurait repris sa baguette.
Bon, et puisque ça c'est l'actualité de nos critiques, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce livre que vous avez co-signé avec Philippe Azou.
Et qui est né d'un déjeuner entre Christian Feuvret, Philippe et moi. Parce que Christian est aussi mon ancien patron.
Eh ben oui. Voilà. Donc il vous a bien infusé.
Il nous a dit. On avait cette idée-là. On en a parlé avec lui. Ça a été juste un déjeuner. On s'est pas revu depuis. Enfin, on s'est revu à l'expo. Mais c'est vrai que on en avait un peu discuté. Ouais.
Ouais, on fait pas ici particulièrement la promo de nos collaborateurs. Mais bon, le livre sort chez Actes Sud. C'était quoi le plus dur pour raconter l'histoire du Velvet?
Très honnêtement, le plus dur c'est maintenant. C'est-à-dire que une fois que le livre est fini, on se rend compte qu'il y a encore énormément de choses à raconter et qu'on pourrait continuer à l'écrire. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que c'est un groupe qui n'est pas épuisable. On en reparle tous les jours avec Philippe Azoury, qui travaille avec moi par ailleurs. Et tous les jours, on se dit, tiens, il faudrait le réécrire, en fait, ce livre.
Voilà. Bon, une édition augmentée pour une prochaine
300 pages de plus.
Prochaine expo. Bon, le hors-série des Un Rock, il est copieux, donc ça va, il y a de quoi faire. On va pas le reprendre tout de suite. Cette expo, elle est visible jusqu'au 21 août, ce qui est formidable, parce que ça laisse le temps quand même à beaucoup de gens qui vont passer par Paris d'ici là, et ceux qui y vivent et alentour, d'aller à la Philharmonie de Paris pour le découvrir. Donc, ce catalogue magnifique, c'est vrai, coédité par La Découverte et la Philharmonie. Un très bel ouvrage à avoir aussi, mais aussi pour ce qui s'y écrit. Et puis, parmi les événements associés, il y a déjà eu un premier week-end d'événements autour du Velvet et de l'Expo. Il y en a un deuxième week-end, ce sera le 21-22 mai.
je retiens, c'est une suggestion, ce ciné-concert sur des films muets d'Andy Warhol. Ce sera samedi 21 à 20h30. Il y aura quand même Tom Verlaine, Martin Reeve, Eleanor Friedberger, Bradford Cox et Dean Wareham, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Donc ça, ce sera effectivement à voir. Et au lieu unique, la veille, le 20 mai, c'est possible ça, certainement, parce que le lieu unique, ils font toujours des super concerts. Donc ça me permet d'annoncer ces deux événements liés à cette exposition Velvet Underground à la Philharmonie de Paris.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous concluons tout à fait l'émission avec le jeu de la dispute et un retour sur le jeu d'abord d'hier au soir, Antoine Guillot.
Qui vous a fait gagner des invitations pour le film Le Fils de Joseph de Jeanne Green. Je vous avais demandé qui a peint la version du sacrifice d'Isaac qu'on voit dans le film. C'était naturellement le Caravage.
Ça c'est un vrai, on en est sûr. Bon, ce soir on fait gagner les expositions Extra Fantômes, c'est jusqu'au 31 juillet à la Gaîté Lyrique à Paris. Quelle question ?
Quelle œuvre d'Offenbach créée le 10 février 1881 fait chanter un fantôme ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Christophe Comte, Joseph Gosse et Antoine Guillot, d'avoir pris part avec moi. Pardon. Toutes les informations sur cette émission sont sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez nous réécouter, podcaster nos émissions, nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Leduo. Prise de son assurée ce soir par Valérie Lavalard, réalisation Daniel Finot. Je vous retrouve demain à 21h pour une dispute consacrée à la bande dessinée. Nous retrouverons Joseph Gosne avec Antoine Guillot. À notre sommaire, ô vous, frères humains, de Luz d'après Albert Cohen, Mr. Morgan d'Igor Hofbauer, et puis L'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Antoine Guillot sera là aussi pour la revue de presse culturelle de la dispute. Nous retrouverons Orlan pour ses choix. Il y aura bien sûr un nouveau cadeau. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15 hors champ par Laura Adler. Dans quelques instants, le journal de la rédaction. Thank you.